magazine des Nations Unies.
Bonjour, bienvenue à cette édition qui coïncide avec le premier anniversaire du magazine des Nations Unies. Notre magazine totalise une année d'existence depuis le 22 janvier dernier, une occasion pour nous de dédier cette émission à tous les auditeurs de Radio Okapi. Les titres, 23 000 réfugiés angolais candidats pourraient être rapatriés à partir de cette année, et cela en dépit de la clause de cessation en vigueur depuis le 30 juin 2012, selon le représentant régional du Haut Commissariat pour les réfugiés. Les détails dans l'actualité de la semaine de cette édition. La section d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO veut renforcer son action pour une bonne gestion des prisons congolaises. Voilà pourquoi elle a organisé une retraite de 3 jours la semaine dernière à Kinshasa. Jean-Pierre et Lali s'entretiennent tout à l'heure avec le chef de la section, dont décryptage. Enfin, mobilisation des ressources pour venir à bout du choléra en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais et les partenaires du domaine de la santé sont conscients du nombre de cas en progression. Toutes les batteries sont mises en marche pour lutter efficacement contre cette épidémie. Un atelier a été organisé dans ce cadre du 22 au 23 janvier dernier à Kinshasa. Notre invité, le docteur Adelaide Marchang, expliquera pourquoi la RDC est confrontée aux épidémies cycliques de choléra. Encore une fois, bienvenue à ce magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Nous vous le disions dans le sommaire, environ 23 000 réfugiés angolais de la RDC sont candidats au rapatriement volontaire. La clause de cessation du statut de réfugié pour les réfugiés angolais de la RDC est entrée en vigueur depuis le 30 juin 2012 dernier. Mais selon Stéphane Sévère, représentant régional du Haut Commissariat pour les réfugiés en RDC, les pourparlers sont en cours avec le gouvernement angolais ainsi que celui de la RDC pour reprendre l'opération de rapatriement de ces 23 000 ressortissants de la République d'Angola. Stéphane Sévère a livré cette information jeudi dernier au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Les détails avec Honoré Missenga Kalala.
17 111 réfugiés angolais de la RDC ont été rapatriés dans leur pays du 4 novembre 2011 au 30 juin 2012, 7 316 à partir du Bas-Congo, 1 798 du Katanga et 6 459 de Kinshasa, a précisé Stéphane Sévère. Au total, environ 90 000 réfugiés angolais vivant en République démocratique du Congo étaient candidats au rapatriement volontaire. Après le 30 juin 2012, date de l'entrée en vigueur de la clause de la cessation du statut de réfugié angolais en RDC, 23 000 Angolais attendent d'être rapatriés. Et selon le représentant régional du HCR en RDC, les démarches sont en cours pour ce faire.
En ce qui concerne les anciens réfugiés angolais, la bonne nouvelle est que je viens de parler très récemment avec ma collègue représentante régionale de l'Afrique australe qui vient d'effectuer une mission à Luanda et qui a eu des entrevues avec le gouvernement angolais, que très prochainement, le gouvernement angolais est prêt à reprendre l'opération de retour des 23 000 qui souhaitent encore retourner. Il y a eu un échange de courrier entre le haut-commissaire Antonio Guterres et le président de la République de l'Angola, Dos Santos, où effectivement on a fait un plaidoyer pour qu'il puisse donner une énième fois une considération de quand même accepter que les Angolais qui souhaitent rentrer puissent le faire.
Quant au reste d'Angolais anciens réfugiés de la RDC, ils sont environ 51 000 qui ont choisi volontairement de poursuivre leur séjour sur le territoire congolais. Ils aussi sont l'objet d'une attention de la part du HCR.
Ça comprend aussi tout le mécanisme de comment les 51 000 qui souhaitent rester en République démocratique du Congo vont être documentés, parce qu'ils devront être munis à un moment donné avec des documents angolais. On parlait autrefois de passeport, aujourd'hui on ne sait pas quelle va être la proposition. Donc on parle d'un nombre de personnes importantes qui est encore à être prises en charge de façon légale, justement qui ne se retrouvent pas comme des apatrides.
Par ailleurs, concernant les déplacés internes, le HCR, citant OCHA, chiffre leur nombre à 2 500 000 fin 2012, dont 310 000 identifiés dans les sites spontanés.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La section d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO a organisé du mercredi au vendredi dernier une retraite à l'intention des policiers de la mission onusienne chargée de sécurité pénitentiaire. Les bénéficiaires sont venus des 11 provinces du pays. Youssouf Ndiaye est chef de la section d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco sur certains concepts liés à l'administration pénitentiaire ainsi que sur les objectifs et les attentes de cet atelier. Suivez.
Bonjour Monsieur Youssouf Ndiaye.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef des sections d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Cette section tient sa troisième retraite ici à Kinshasa. D'abord, pourquoi retraite et non pas atelier?
Oui, on peut dire que c'est de la sémantique. Mais la retraite, ça renvoie à une sorte de conclave. Donc, ça permet aux membres de l'unité de se retrouver en interne et de regarder ce qui a été fait avant, donc après les premières retraites, de faire une évaluation, pas de complaisance, mais une évaluation critique et objective de l'action qui a été menée jusque-là. Et puis ensuite, de se projeter sur le futur immédiat, le futur proche et le futur lointain.
Beaucoup de Congolais ignorent peut-être ce que vous faites exactement ici en RDC, ou bien ce que fait la section. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez leur dire ce que vous faites exactement en faveur du peuple congolais?
Nous appuyons l'administration pénitentiaire du Congo, donc les pouvoirs publics congolais, à asseoir une emprise professionnalisée sur le système pénitentiaire du personnel. Comme vous le savez, le personnel pénitentiaire n'est pas professionnalisé en République démocratique du Congo. Ce sont les fonctionnaires de droit commun qui officient au niveau des établissements pénitentiaires, de l'administration pénitentiaire. Alors que selon les recommandations des Nations Unies, le personnel pénitentiaire doit être spécialisé et relevé d'un statut particulier. Nous faisons aussi sur le terrain un travail de formation sur le terrain, ça veut dire au niveau des pratiques professionnelles, au niveau de la gestion de la routine pénitentiaire, au niveau du renforcement des capacités de gestion de la peine. Et au niveau de la sécurité également, nous donnons un certain nombre de conseils sur le terrain. Et puis, nous travaillons aussi pour la réhabilitation de petites structures pénitentiaires. Et puis, à mettre en place des institutions pénitentiaires solides, capables de porter le système. Et surtout, qui sont orientées vers la mise en œuvre, l'application des standards pénitentiaires tels que définis par les Nations Unies.
Vous venez d'arriver à la tête de cette section il y a 6 mois, mais en vertu du principe de la continuité, est-ce que vous pouvez nous dire, donner une brève évaluation de l'année passée dans votre section? Qu'est-ce qui a été fait exactement jusque-là?
L'année passée, comme vous le savez, c'était tout de même une section qui est un tout petit peu en train de se mettre en place. Mais nous avons donné deux types d'actions. Au niveau central, nous donnons des conseils techniques pour la mise en place d'une administration de structure pénitentiaire centrale consolidée, efficace et solide. Aussi, nous travaillons pour appuyer les autorités congolaises à professionnaliser le corps de l'administration pénitentiaire qui ne l'est pas à présent. Et sur le terrain, nous travaillons pour renforcer les capacités de gestion des acteurs pénitentiaires, des directeurs d'établissement et des autres acteurs. Nous travaillons aussi pour renforcer la capacité de gestion de la routine pénitentiaire, la sécurité pénitentiaire, la gestion des détenus, la gestion de la peine, etc. Tout ce qui touche à l'organisation et à la gestion des établissements pénitentiaires.
Concrètement, on peut avoir un exemple ici à Kinshasa ou à l'intérieur du pays du travail que vous faites sur le terrain. Un exemple concret.
D'un point de vue concret, par exemple, je vous parlais tout à l'heure du projet de reconstruction de la prison de Nolo qui a été réalisé sur la base d'un projet que nous avons fait et financé par des bailleurs. Nous avons des agents qui vont régulièrement travailler dans les prisons aux côtés de leurs collègues congolais. Donc c'est un travail de mentoring, d'advising et de coaching de façon générale, mais aussi nous utilisons les projets CUIP pour la réhabilitation de certains équipements ou la construction de certains blocs opérationnels pour la fonctionnalité de la prison CUIP.
Oui. Revenons justement à la retraite elle-même. Quelle est la différence de cette retraite par rapport aux deux précédentes qui se sont déroulées, je crois, ici à Kinshasa même? Est-ce qu'il y a une différence sur le plan thématique et sur le plan de fond?
De façon générale, c'est une continuité. Le seul élément de rupture, c'est que il y a un nouveau chef. Donc la dernière retraite avait été sous l'égide d'un autre chef. Donc elle intervient 6 mois après la nomination d'un nouveau chef à la tête de la section.
Vous-même?
Oui, moi-même. Donc, ça permet ça fait 2 ans, c'est une continuité. deux ans que la section existe. Donc c'est aujourd'hui l'occasion, je pense, de revenir sur ces deux années et puis de renforcer l'organisation interne afin de donner un appui beaucoup plus efficient, conforme aux attentes des autorités congolaises dans le domaine pénitentiaire.
Ah oui, est-ce qu'on peut parler justement concrètement des objectifs à atteindre au cours de cette séance de travail?
Il y a des objectifs internes à l'unité, parce que, comme vous le savez, deux ans, c'est très peu dans la vie d'une unité. Donc, renforcement de l'organisation interne de l'unité, spécialisation de différentes cellules de l'unité sur des actions précises, et puis mettre en place un mécanisme d'appui aux autorités congolaises, justement pour la mise en œuvre et la conception d'un projet de réforme de l'administration pénitentiaire.
Oui, et en ce qui concerne les attentes, à l'issue de ces travaux, qu'est-ce que le peuple congolais en général et la MONUSCO en particulier peut attendre de ces assises?
Une section pénitentiaire beaucoup plus structurée, beaucoup plus solide, beaucoup plus efficace, orientée vers des actions concrètes pour faire la différence. Et puis une section pénitentiaire va faire des propositions concrètes d'appui au ministère de la Justice, puisque c'est le ministère compétent dans le domaine pénitentiaire, pour la mise en œuvre, encore une fois, de cette question cruciale de la réforme pénitentiaire.
Une autre question, Monsieur Youssoufa. 31 agents de votre section viennent être décorés. Bon, donc, ils ont eu une médaille aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela représente pour vous? Quelle est la symbolique même de cette décoration?
Cette décoration, elle intervient pour eux après 6 mois de service rendu dans, j'allais dire, le théâtre des opérations, dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. Cela représente symboliquement une perpétuation, justement, de la déclaration de San Francisco de 1945, donc consacre la charte des Nations Unies. Et d'un point de vue symbolique, cela consacre 6 mois consacré au service de la paix.
Monsieur Youssoufa Diaye, je rappelle que vous êtes chef des sections d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO et je vous remercie.
Merci.
Nouvelle en bref, sachez qu'une quarantaine de participants venant des ONG locales ont participé à un atelier d'élaboration et de gestion des projets de nutrition en situation d'urgence du 22 au 25 janvier 2013 dans la capitale. Il s'agit des représentants des ONG de Kinshasa, de l'Équateur, du Bas-Congo et du Bandundu. Cet atelier a été organisé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF veut rendre ces ONG plus efficaces dans l'élaboration et la gestion des urgences nutritionnelles. La police MONUSCO a lancé son projet de formation des formateurs en police de proximité. C'était le 22 janvier dernier à Bounia, en province orientale. La formation se tient au centre de formation et d'instruction. Elle durera 8 semaines. Les 15 policiers qui seront formés dirigeront à leur tour la formation de base en police de proximité d'une durée de 6 mois. Le PNUD est aussi partenaire de ce projet. L'UNESCO, basée à Kinshasa, a organisé cette semaine, dans le cadre de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, une vidéoconférence sous le thème « Médias et génocide, réflexion sur l'Holocauste ». Cet événement a connu la participation du siège de l'UNESCO à Paris, en France, et des bureaux hors siège de Dakar au Sénégal, Libreville au Gabon et Yaoundé au Cameroun. Les participants à cette vidéoconférence ont pu également suivre le témoignage d'une rescapée de l'Holocauste, Ginette Kolinka, aujourd'hui âgée de 88 ans. Elle a parlé du martyre subi avec sa famille pendant les années 40-45.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le gouvernement congolais et ses partenaires du secteur de la santé ont mobilisé beaucoup de ressources depuis mars 2011 pour lutter contre le choléra, mais les analyses épidémiologiques des données de surveillance démontrent que la maladie augmente en nombre de cas notifiés et persiste au fil de temps, ce qui justifie la tenue à Kinshasa du 23 au 24 janvier dernier d'un atelier d'évaluation de lutte contre le choléra en RDC pour la période de 2011-2012. Objectif, discuter sur la situation épidémiologique actuelle dans cette de cette maladie et proposer de nouvelles stratégies à incorporer dans le nouveau plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra d'ici 2017. En marge de cet atelier, Dr Adelaide Marchand, coordinatrice de Cluster Santé à l'OMS RDC, a expliqué pourquoi les épidémies du choléra se succèdent jusque-là en RDC. Elle s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Docteur Adelaide Marchand, bonjour.
Bonjour, je suis Dr Adelaide Marchand, la coordinatrice du cluster santé de l'OMS en RDC.
Alors docteur, le choléra figure parmi les maladies sous surveillance en RDC. Un plan d'élimination de cette maladie a été adopté pour la période 2008-2012. Quel bilan fait l'OMS aujourd'hui de ce plan d'action pour la période 2011-2012?
D'abord, c'est très 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 important que le choléra soit reconnu comme un risque important pour la population et que des ressources soient mobilisées pour financer ce plan très 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 important qui vise à une diminution et un contrôle ou même à un moment donné qui veut viser à une élimination de cette maladie en RDC.
Oui, mais quel est le bilan que fait l'OMS par rapport à ce plan d'action?
Bon, c'est un plan d'action du ministère de la Santé, donc je pense que c'est très important à poser cette question là-bas. Pour nous, ce que je peux dire, donc, pour la réponse au choléra, ça veut dire les activités à répondre aux flambées, aux épidémies qui se sont produites en 2011 et 2012. La réponse collective a apporté à l'Ouest une diminution des cas. En ce moment, les cas diminuent ou sont en train d'être notifiés à très très bas, comment dire, fréquence.
Une idée sur les chiffres?
Oui, donc les chiffres sont disponibles, je dois les trouver. Il y a des statistiques assez précises qu'on collecte chaque semaine. À l'Ouest, on est dans une période dite la queue d'une épidémie, donc vers la fin d'une épidémie qui est assez délicate comme phase parce qu'on doit veiller maintenant que de ne pas baisser les bras et de faire tout que cette baisse de cas continue avec une disparition des cas. Là où on est maintenant dans une phase très délicate à l'Ouest. À l'Est, où le choléra est endémique, les stratégies doivent être différentes. La maladie est entretenue aussi par les grands mouvements de population qui se produisent là-bas suite aux conflits et violences.
Oui, à l'Est, ce sont les grands mouvements, mais à l'Ouest, quels sont les facteurs qui sont liés au choléra?
À l'Ouest, les facteurs qui sont liés au choléra ont été bien analysés. Il y a le risque des ports, il y a le risque de la situation d'assainissement. Donc, ça veut dire les structures des sanitations, le comportement de la population et, en fait, les connaissances sur la maladie même qui sont assez faibles encore.
Docteur, malgré ce plan d'action et les moyens mobilisés par le gouvernement congolais, ses partenaires, dont l'OMS, la vague des épidémies du choléra n'est pas stoppée. Pourquoi tout ça?
Je pense que cette question est complètement justifiée et c'est une question que nous nous posons aussi. C'est pas seulement qu'on se la pose, on fait aussi quelque chose pour répondre. On a analysé les contraintes. Les contraintes sont parfois la densité des centres de traitement. Parfois, on voit qu'il y a une distance assez large à parcourir pour la personne qui est atteinte depuis une communauté jusqu'au poste ou au centre de traitement qui peut lui aider. Donc, on doit regarder pour ceci des aspects communautaires, géographiques de la taille du pays, la disponibilité des intrants dans les communautés ou dans les structures de santé périphériques. Et très, très, très important, pour répéter, la situation de l'approvisionnement en eau, mais de la sanitation au pays, donc des constructions sanitaires, des latrines, la disponibilité des latrines, et je reviens de nouveau la difficulté de changer vite le comportement de la population, ça dure. Malgré les efforts intensifiés, le changement de comportement est un défi.
Selon les termes de référence, on dit que le choléra est entré en République démocratique du Congo par l'Angola depuis les années 70. Est-ce qu'il y a au niveau de l'OMS une stratégie commune entre la RDC et les pays qui l'environnent?
Il y a la possibilité, en fait, d'une contamination transfrontalière à plusieurs frontières. Et c'est pour ça qu'on a relevé la nécessité d'avoir un échange local, régional, même continental, parce que ce n'est pas seulement un problème en RDC et autour, mais aussi dans des autres régions en Afrique. Donc, l'OMS qui, à travers son bureau régional, a accès à des autres pays qui sont touchés justement par la même problématique, pourrait susciter une réunion, une rencontre, un atelier qui essaie d'aborder justement cette question. Et nous espérons ou nous envisageons qu'une des conclusions de cet atelier sera de recommander justement une discussion inter-pays.
Un dernier mot peut-être, docteur, un message?
Le message est de ne pas baisser les bras, de continuer dans la lutte contre le choléra et de tirer les leçons et de les appliquer.
Le Programme alimentaire mondial, antenne de l'Équateur, juge positif le bilan de ses activités pour l'année qui vient de s'achever. Cette agence du système des Nations Unies a apporté l'assistance en vivres aux personnes vivant avec le VIH, aux élèves du primaire dans le cadre de son programme de cantine scolaire et aux rapatriés en provenance du Congo-Brazzaville. Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé, avec les campagnes de vaccination qu'elle a organisées en 2012, a réussi à arrêter la propagation du poliovirus sauvage à l'Équateur. Le point avec Henri Lowondo Bokelou.
En croire Madame Altibena, chef de sous-bureau du programme alimentaire mondial Équateur, le bilan du PAM en 2012 se résume en deux points. Un bilan positif dans le cadre de l'assistance en vivres et non-vivres aux bénéficiaires et les difficultés logistiques surmontées dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PAM. Cette agence a réalisé ses activités traditionnelles, entre autres l'assistance nutritionnelle dans les établissements scolaires dans le cadre de ses programmes de cantine scolaire et de centres thérapeutiques de supplémentation. Elle a également offert des vivres aux femmes victimes des violences sexuelles et aux personnes vivant avec le sida. Mais aux réfugiés congolais qui regagnent le pays au nord-équateur, le PAM leur a remis de l'argent pour s'acheter des vivres. C'est une innovation, comme l'explique Madame Altibena, chef de sous-bureau PAM Équateur.
Ce qui est novateur dans le cadre de l'assistance du PAM, c'est que le PAM a assisté ces mêmes rapatriés-là dans leur lieu de destination à travers la distribution de cash. Ce que nous n'avions jamais fait au niveau de l'Équateur. Ils reçoivent ce montant-là pendant une période de 3 mois. On leur permet de se remettre sur pied et également de pouvoir reconstituer leurs moyens de subsistance.
Toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre dénommé intervention de secours et de redressement. Mais le mode de financement du PAM n'est pas le même par rapport aux autres agences du système des Nations Unies. Il faut lancer des demandes de financement aux pays et organismes contributeurs avant de financer ces activités, ce qui explique les difficultés d'ordre logistique que cette agence a rencontrées.
L'Équateur est une zone où il est difficile de se déplacer et donc pour se déplacer par voie routière, c'est vraiment limité. Les déplacements également par voie fluviale ou bien par les rivières sont limités aussi.
De son côté, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, grâce à ses campagnes de vaccination, a réussi à stopper la circulation du poliovirus sauvage à l'Équateur en 2012. Pendant cette année, aucun cas de polio n'a été enregistré à l'Équateur. Henri Lobodo Bokelou, Mbandaka, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Tangonga ina lelaka, motondi mangaite. Tangonga ina lelaka, Wapiyo, Maya mi sueco tangao, Bolingo nangayo wa, yey, Naniaco en belandan sembo, Nya bolingo, Wapiyo, Wapiyo, yey, Wapiyo, Wapiyo. Tangongai na lelaka, motuandi mangai te. Tangongai na lelaka, wapiyo.
Mon nom est Alain Brahim, je suis marié, je suis péruvien, je suis monteur et aussi réalisateur vidéo. Je travaille au sein de la section vidéo qui est une unité de la division information publique de la MONUSCO. Je suis ici en RDC depuis mai 2007, ça fait presque 6 années déjà. En tant qu'unité vidéo, nous produisons une émission télévisée hebdomadaire, On Magazine, qui est diffusée chaque semaine sur 9 chaînes de télévision les plus importantes de la RDC. À travers de ce programme, nous montrons les activités de la MONUSCO de chaque semaine et nous y produisons des portraits de Congolais qui, par leur travail, apportent quelque chose de positif pour le pays. Ils peuvent être musiciens qui ont fait une chanson sur la paix, un artiste, peintre, sculpteur ou un encadreur qui apprend aux enfants de la rue des petits métiers comme la céramique, la cornerie, des ouvres de art, etc. Chaque semaine, je suis obligé de trouver un Congolais pour en faire une histoire pour notre programme de télévision. C'est comme ça toutes les semaines. Et par moments, je descends sur le terrain pour filmer des histoires avant de me consacrer des autres jours de la semaine au montage des reportages réalisés. Avant de venir à la MONUSCO, j'ai travaillé comme chef de montage pour différents programmes de télévision et de nouvelles dans mon pays, le Pérou, qui se trouve dans l'Amérique du Sud. J'ai aussi travaillé dans cette époque-là comme monteur de télévision et de films. Et j'ai également travaillé en tant que directeur de vidéos d'entreprise, parfois. Pendant mon temps libre, je lis, je regarde des films et je rédige, mais surtout je fais la musique. Depuis 4 ans, j'ai un groupe de musique où j'ai évolué avec des amis congolais comme chanteurs. Nous avons commencé comme un groupe de rock. À cette époque-là, on s'appelait les Vents des Sauvages. Après, on a évolué dans les salsa et on a changé le nom à Mundele et son Tumbaco. Présentement, nous préparons 3 concerts qui serviront de dire adieu aux Congolais parce que je vais bientôt quitter la mission, la MONUSCO, au mois de mai de cette année. Après la mission, je vais créer chez moi, au Pérou, une entreprise pour réaliser des films documentaires. Et si je trouve des amis dans la musique, comme je n'ai trouvé ici au Congo, pourquoi ne pas continuer à faire de la musique rock? Le plus grand souvenir pour moi, c'est mes amis musiciens. J'ai partagé beaucoup de jours avec mes amis musiciens, avec les souffrances. Il y a beaucoup de choses compliquées pour les musiciens ici au Congo. Tu vois, il y a les problèmes des droits d'auteur, il y a la piraterie. Même s'ils font beaucoup de talent, ils ne peuvent faire rien parce que c'est très vraiment compliqué pour publier un CD. Il n'y a pas d'usine musicale. Donc, mes mémoires ici au Congo, tous les souvenirs les plus profonds pour moi, c'est tout le temps que j'ai partagé avec les amis musiciens, même dans les groupes et même dans la rue en train de s'amuser. Oui, je connais bien Kinshasa, je connais bien... je connais Kimbanseke beaucoup. J'étais beaucoup de fois à Kimbanseke parce qu'il y a beaucoup d'amis qui habitent là. Je connais les esprits de mort, les mouras, je connais des choses que... Parce que mes amis congolais, c'est ils qui m'enseignent tout ça.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Oui, je m'appelle Jean-Marie Ndeke, je suis agronome. La FAO et le gouvernement ont organisé une campagne de vaccination d'au moins 50 000 petits ruminants contre la peste dans les territoires de Massimanimba au Bandundu. Quel est le bilan de cette opération? Quel est son impact dans la lutte contre la peste de petits ruminants dans cette partie du pays?
Et pour vous répondre, nous avons contacté pour vous le docteur Prosper Kabambi. Il est consultant chargé de la peste des petits ruminants à la FAO. Docteur, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie Ndeke, pour la question. La première chose que je vous dirais, c'est que l'objectif de la FAO et le gouvernement n'était pas de 50 000 têtes, mais plutôt de 500 000 têtes. Et je peux dire que par rapport à cet objectif, le bilan est globalement assez positif, parce que sur les 500 000 têtes qui étaient visées, actuellement, il y a déjà plus de 400 000 têtes qui sont vaccinées. Ça a été fait en deux phases, dans les cinq secteurs qui étaient jusque-là indemnes de la maladie. Et actuellement, nous sommes en train de préparer une dernière phase qui va s'occuper maintenant de groupements indemnes à l'intérieur des secteurs qui sont qui étaient atteints. Et je peux dire que le bilan aujourd'hui est pratiquement de 82% de réalisation. Mais pour ce qui est de l'impact sur dans la lutte contre la peste, je pense que c'est un impact qui est positif. D'abord, vous savez que la chèvre, c'est vraiment la banque sur pied de la population. Donc, avec cette vaccination, la maladie est pratiquement stoppée. L'objectif, c'était de faire une barrière pour empêcher que cette maladie ne puisse atteindre les autres contrées. Et je crois que de ce côté-là, il y a quelque chose de positif, qui a été réalisé. Et nous pensons que c'est aussi une grande contribution pour le développement de l'élevage dans cette partie de la République. Et une chose encore importante, c'est que cette campagne a permis de recréer un climat de confiance entre la population et les autorités des services vétérinaires en particulier, mais aussi avec la FAO, qui jusque-là était un peu dans l'entendement populaire considéré comme une institution qui s'occupe que de la production végétale. Donc là, c'était une contribution importante pour la santé animale. Voilà globalement ce que je peux vous donner comme réponse pour votre question. Je vous remercie.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Le 29 janvier prochain, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des lépreux. L'OMS et le gouvernement organiseront à cette occasion des activités commémoratives en faveur des victimes de cette maladie en RDC. Il est notamment prévu une visite aux lépreux internés à l'hôpital de la Rive dans la commune de Galiema à Kinshasa. C'est à retenir pour l'agenda de cette semaine. C'est la fin de cette édition du magazine des Nations Unies. Ce numéro a été supervisé par Nico Ngaka. Jean-Pierre Elali Coco l'a coordonné. Honoré Missenga était au reportage. Mila Kimbini vous l'a présenté avec l'assistance technique de Dieudonné Nyangasa. Vous nous avez pris de court. Sachez que vous pouvez réécouter cette émission tout à l'heure à 19h03, heure de Kinshasa. Une émission que vous pouvez également retrouver sur le site de Radio Kapi, www.radiokapi.net. Vous pouvez y poster vos suggestions, vos questions ou vos remarques dans les commentaires, ou vous pouvez carrément nous appeler au 082 30 76 630. Bon anniversaire à l'équipe qui produit le magazine des Nations Unies et excellente journée dominicale à tous.